France Culture, Avoir raison avec Bertha von Suttner, Margot Le Ridon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le nom de Bertha von Suttner ne vous dit peut-être rien, mais il est possible que son portrait se cache au fond de votre porte-monnaie. Plus précisément sur le côté face d'une pièce de 2 euros émise par l'Autriche, qui vous serait parvenue par la magie de la libre circulation. Toute cette semaine, nous redécouvrons l'œuvre et l'engagement de cette étonnante baronne, première femme lauréate du prix Nobel de la paix. Avoir raison avec Bertha von Suttner, épisode 1, une aristocrate atypique. Pour nous la présenter, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Antoinette Marteil, docteur en études germaniques et autrice de l'ouvrage Bertha von Suttner, militante laïque, féministe, pacifiste, paru en 2014 à l'Harmattan, avec nous en studio. Bonjour Marie-Antoinette Marteil.
Bonjour.
Également avec nous en duplex de Lyon, Ingeborg Grabenstein-Michel, maîtresse de conférence à l'Université Claude Bernard de Lyon, autrice de plusieurs articles sur notre baronne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ce jour-là, je rencontrais par hasard Bertha von Suttner, la grande et généreuse Cassandre de notre temps. Aristocrate issue d'une de nos plus anciennes familles, elle avait assisté dans sa prime jeunesse aux horreurs de la guerre en 1866 dans les environs du château de ses ancêtres en Bohême. Et avec la passion d'une Florence Nightingale, elle n'assigna plus qu'une seule tâche à toute sa vie, empêcher une seconde guerre, empêcher la guerre en général. Elle m'aborda tout excitée. « Les hommes ne comprennent pas ce qui se passe », s'écria-t-elle à haute voix et en pleine rue, elle qui était ordinairement si calme, si aimable et paisible quand elle vous parlait. « C'est déjà la guerre et ils ne nous ont rien dit, ils ont de nouveau tout caché, tout tenu secret. Pourquoi ne faites-vous rien, vous autres jeunes gens? C'est vous que cela regarde avant tout. Défendez-vous donc, unissez-vous. Ne laissez pas toujours tout faire à quelques vieilles dames que personne n'écoute. » Je lui dis que j'allais à Paris. Peut-être pourrait-on essayer d'une manifestation en commun? « Pourquoi peut-être ?» me pressa-t-elle. « La situation est pire que jamais. La machine est déjà en marche. » Cette présentation in situ, on la doit à Stefan Zweig qui consacre quelques paragraphes de son ouvrage « Le monde d'hier » à Bertha von Suttner. Il la présente comme issue d'une de nos plus anciennes familles. Est-ce que vous pouvez, Marie-Antoinette Marteil, nous présenter cette famille dans laquelle Bertha voit le jour ?
Oui, cette famille qui s'appelle Kinsky était une des vraiment des plus grandes familles d'Autriche, avec deux branches, l'une militaire et l'autre politique. La branche militaire était plutôt du côté de Prague, du nord, donc de l'Autriche, et la politique était du côté de la Cisleithanie. Elle a donné, le côté politique a donné des ministres et des conseillers particuliers, par exemple, de l'impératrice Marie-Thérèse.
Donc elle naît Bertha Kinsky, et malgré ses origines aristocratiques, sa vie va rapidement se distinguer de celle des autres jeunes filles de la noblesse, notamment parce qu'elle refuse de prendre le premier bon parti venu. À quoi occupe-t-elle alors sa jeunesse, Ingeborg Grabenstein-Michel?
Je voudrais peut-être ajouter à la présentation de sa famille. Effectivement, c'est une famille de grands serviteurs de l'Empire, hein, depuis des générations. Mais là, déjà, il y a quelque chose d'atypique, si je peux me permettre, parce que Bertha von Suttner naît le 9 juin 1843 à Prague. Son père décède juste avant sa naissance. Et à ce moment-là, son père avait 76 ans. Donc il y a déjà quand même quelque chose d'un petit peu étonnant dans cette naissance. La deuxième chose, c'est que les Kinsky, comme l'a dit ma collègue, sont des grands serviteurs de l'Empire, mais son mariage avec Sophie von Körne, sa mère, hein, la mère de Bertha von Suttner, a été considéré comme une mésalliance, entre autres parce que Sophie von Körne était de petite noblesse, enfin c'était absolument incomparable, et puis à cause de cette énorme différence d'âge, ce qui fait que, jeune fille déjà, Bertha von Suttner est un petit peu, si je peux me permettre, entre deux chaises, c'est-à-dire elle appartient à cette haute aristocratie, mais en même temps elle est quand même un petit peu marginalisée et ostracisée. à cause effectivement de tout ce contexte, enfin, qui rappelle d'ailleurs, enfin, ce mariage entre son père et Sophie von Körner rappelle un petit peu plus tard ce mariage aussi considéré comme une mésalliance entre l'héritier du trône et Sophie Schottek, hein, pas mal de temps plus tard. Donc, elle est a priori élevée comme les jeunes filles de son rang social. Elle fait des études très poussées. Elle aime étudier. Enfin, il faut dire ça aussi. Elle aime la philosophie, les langues étrangères, etc. Mais le premier but, bien entendu, à l'époque, c'est faire un beau mariage. Et il y a deux fiançailles qui sont rompues successivement. La première avec le baron von Heinegelden, où elle reproduit un petit peu le schéma de ses parents, parce que ce baron, à l'époque, avait 36 ans de plus qu'elle. Il était très riche, alors a priori un bon parti. Et le deuxième, c'était le prince de Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, hein, dont elle s'est rendu compte relativement vite qu'il était le mouton noir de la famille, sous tutelle, etc. Donc fiançailles rompues. Là aussi, deux fois des fiançailles rompues dans cette société qui la mettait déjà un petit peu en porte-à-faux.
Alors, après ces deux fiançailles rompues, elle va donc se retrouver à l'approche de la trentaine encore célibataire, ce qui est une aberration pour l'époque, et elle décide donc de travailler.
Das, was ich meine.
Sagt mal, wer brummt denn da? Also ich bitte euch, das schöne Lied gehört doch kein Brummer rein. Der muss wieder raus.
Das wäre aber schade. Ich bitte um Vergebung, Gräfin.
On vient d'entendre un extrait de Herz der Welt, Le cœur du monde, un film sur Bertha von Suttner sorti en 1952. Dans ce passage, Bertha, devenue gouvernante, donne une leçon de musique aux jeunes filles dont elle s'occupe. Et la leçon est interrompue par leur grand frère. Qui sont ces fillettes Marie-Antoinette Marteil et qui est leur frère?
Tout simplement, c'est la famille Suttner, un baron autrichien, mais nouvellement anobli pour service rendu à l'empereur. Et il y avait quatre jeunes filles, entre 12 et 18 ans, et trois garçons. Les deux aînés étaient mariés. Le plus jeune, Arthur Gundakar, était encore au château. Il faisait des études à Vienne, mais voilà, il n'était pas très féru d'études, à la différence de Bertha qui en voulait toujours plus. Je voudrais rajouter à ce qui a été dit précédemment, c'est qu'elle a fait des études poussées, mais autodidacte. Elle n'a jamais eu de professeur, c'est par ses lectures qu'elle a avancé. Très rapidement, elle s'est intégrée à la famille Suttner. Elle donnait des cours de piano, de chant, et leur apprenait les bonnes manières en société et se promenait dans le Prater avec elle.
Le Prater à Vienne.
Le Prater à Vienne, c'était le bon côté de la chose. Et le super côté de la chose, c'est qu'elle est tombée amoureuse du jeune fils, Arthur Gundakar, qui était encore à la maison.
Et qui était plus jeune qu'elle.
Qui était 7 ans plus jeune qu'elle. Et cette amourette était connue des filles qui les soutenaient entièrement. La mère a découvert le poteau rose au bout de 3 ans et donc a mis Bertha à la porte, ce qui était assez logique, mais parce que elle avait certes un très beau nom, mais c'est tout ce qu'elle, et elle était belle femme, mais c'est tout ce qu'elle possédait.
Alors, cette émission s'appelle « Avoir raison avec Bertha von Suttner » et pas Bertha Kinski, donc nos auditeurs se doutent que cette idylle va connaître un happy end, mais en attendant, après s'être fait renvoyer de la maison, elle doit quand même quitter donc cette famille pour échapper au scandale, et elle trouve un nouvel emploi loin de Vienne, à Paris. Ingeborg Rabenstein-Michel, qu'est-ce qu'elle va faire à Paris ?
Elle s'enfuit en quelque sorte parce qu'effectivement la famille Soutna n'était pas très heureuse de cet amour entre ce jeune fils et Bertha von Soutna. Et de nouveau, il y a deux éléments un petit peu atypiques. Premièrement, effectivement, qu'elle décide de gagner sa vie et elle précise même gagner sa vie et son indépendance, ce qui est quand même assez inhabituel pour l'époque. Et puis effectivement, cet amour avec Arthur Gundakar, qui a 7 ans de moins qu'elle. Enfin, tout à l'heure, on a bien vu enfin des mariages avec 36 ans, voire plus de différence, mais en général, c'est l'homme qui est bien plus âgé que la femme. Donc, elle part, elle est mise à la porte, elle part à Paris, un petit peu par hasard. Elle rencontre un riche industriel du nom d'Alfred Nobel. Elle devient sa secrétaire et il s'établit très vite une liaison de confiance entre Nobel et Bertha von Suttner. Ils vont rester en contact jusqu'à la mort d'Alfred Nobel. Ils vont avoir une correspondance suivie. Alors, on a un petit peu parfois sous-estimé, parfois surestimé, ça part dans la création du prix Nobel, mais en l'occurrence, bien entendu, elle a quand même un petit peu peut-être contribué à cette création, et en ce qui concerne le prix Nobel de la paix, elle sera la première lauréate en 1905.
Voilà, alors partie de sa vie qu'elle passe à Paris auprès d'Alfred Nobel est finalement très courte, Marie-Antoinette Marteille, puisqu'elle va finalement retourner à Vienne épouser clandestinement Arthur, mais va marquer durablement son existence du fait de cette correspondance qui vient d'être évoquée. Vous, selon vous, quel rôle a vraiment joué Bertha von Suttner dans cette création du prix Nobel de la paix ? Dans quelle mesure est-ce qu'elle l'a inspiré à Alfred Nobel qu'elle a rencontré à ce moment charnière de sa vie ?
C'était un moment charnière, effectivement. Elle était désespérée de quitter Arthur Gundakar. Et bien que Nobel l'ait extrêmement bien reçu, ça n'a duré que 8 jours, ils ont beaucoup discuté, ce qui n'était jamais arrivé. Et on a dit d'emblée qu'elle ne suivait pas un parcours commun. C'est vrai que c'était pas commun qu'elle était engagée comme gouvernante et qu'elle se mette à discuter d'égal avec Nobel. Ils ont immédiatement discuté de la paix ou de la guerre et Nobel a immédiatement dit, d'après les mémoires de Bertha, « Je souhaite trouver une machine tellement terrible qu'elle mettra fin à la guerre parce que celui qui l'empêchera détruira tout le monde. »
Oui, donc en quelque sorte, il anticipe la dissuasion nucléaire, sachant qu'il a déjà inventé la dynamite, ce qui pour l'époque est une arme de destruction déjà massive pour l'époque, on va dire.
Oui, absolument.
Et alors, après cette période brève à Paris, elle retourne à Vienne où elle épouse clandestinement Arthur et il décide de fuir le scandale en Mingrélie, dans l'actuelle Géorgie, pour laisser passer l'orage familial. Comment est-ce qu'ils choisissent cette destination, Ingeborg Drabenstein-Michel ?
Je voudrais juste, avant de répondre à la question, ajouter par rapport à son prix Nobel, puisqu'on vient de l'évoquer, qu'on trouve toujours sur Internet le discours de Bertha von Suttner, le discours qu'elle a tenu, enfin quand elle a reçu en 1906 le prix Nobel. Quelque chose qui avait été passé complètement en silence à l'époque, mais enfin c'est vrai, c'était tout nouveau, enfin ça n'avait pas encore le prestige que le prix Nobel peut avoir aujourd'hui. Ils sont partis parce qu'ils avaient quand même un certain nombre de connaissances, de relations, etc., sur place, en Géorgie, en Russie, etc. Et ils ont pensé que là, ils étaient dans un cadre qui leur permettait effectivement de vivre autrement que des aristocrates qui normalement vivent de leur fortune, etc., puisqu'ils n'en avaient point. De nouveau, ils travaillent et se mettent à l'écriture. Ils écrivent des romans, des feuilletons, des chroniques, etc., dont ces fameuses lettres du Caucase qui sont publiées, qui ont beaucoup de succès, qui sont publiées aussi dans plusieurs pays. Et là aussi, de nouveau, enfin, si vous voulez, un aspect atypique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout dans de la littérature pour dames, mais dans de la littérature qui s'occupe, qui réfléchit effectivement, qui décrit les conflits, par exemple la guerre russo-turque hein, de 1877-1878, l'antisémitisme qu'il trouve, qu'il observe sur place, etc. Donc on est dans des aspects politiques, des aspects qui concernent la société, etc. Donc, de nouveau, hein, un chemin un petit peu à part, c'est-à-dire nous ne sommes pas du tout, du tout dans la frivolité, dans la mièvrerie et dans la littérature pour les dames qui voudraient se distraire avec un journal style Die Gartenlaube, etc.
France Culture, Avoir raison avec Bertha von Suttner, Marco Loridon.
Alors Ingeborg Grabenstein-Michel vient d'évoquer notamment la guerre russo-turque à laquelle les époux Suttner assistent lors de leur séjour dans le Caucase. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Marie-Antoinette Marteil, les enjeux de cette guerre russo-turque et nous dire dans quelle mesure elle a contribué à la prise de conscience pacifiste de Bertha ?
Oui, je voudrais déjà, avant de répondre à cette question, dire que c'est pas par hasard qu'ils sont partis en Géorgie, en Mingrélie-Géorgie. Bertha avait, dans sa jeunesse, fréquenté les villes d'eau. L'été, les villes d'eau, l'hiver, Paris, Rome ou Venise. Et sa mère était joueuse. Elle a d'ailleurs joué l'héritage de sa fille. Et c'était une des raisons majeures pour lesquelles Bertha est devenue gouvernante. Mais dans ces villes d'eau, elle a rencontré la princesse Dadiana de Mingrélie, qui l'a prise sous sa coupe. C'est inexpliqué pourquoi il y a eu cette affection, mais c'était comme ça. Et elle était invitée à aller en Géorgie dès qu'elle le voudrait. Donc quand elle a quitté Nobel pour rentrer à Vienne et se marier, ils ont décidé immédiatement de partir en Mingrélie. On dit qu'ils se sont mariés en tenue de voyage déjà. Et donc, au tout début, ils ont vécu dans la noblesse, mais ça pouvait pas durer. Pourquoi ça n'a pas pu durer? Déjà parce que tout a une fin, mais aussi à cause de cette fameuse guerre russo-turque. Les Russes voulaient envahir la Géorgie, en fait, qui était indépendante. C'était des principautés indépendantes. Et aussi la Crimée. Et donc, on touche à un des problèmes actuels. Hein. C'est toujours le même mouvement de la Russie vers la mer Noire. Et voilà. Ils étaient donc en Géorgie parce que les armées russes voulaient prendre Kars en Arménie. Ils n'étaient pas sur le front, mais ils étaient quand même sur le passage des troupes. Donc, conséquence pour eux de voir les horreurs de la guerre. Deuxième conséquence majeure, ils ne pouvaient plus donner de leçons, ils ne pouvaient plus travailler. Arthur Gundakar avait travaillé comme contremaître dans une entreprise, elle a fermé. Elle n'avait plus de cours, donc il fallait survivre. Et c'est là que Arthur s'est mis à envoyer des comptes rendus de guerre, des historiettes sur le Caucase, etc. Et Bertha a donc, par imitation et par inactivité, s'est mise à écrire. Je voudrais quand même rajouter, en plus de ça, tout le temps qu'ils ont été là-bas, ils ont travaillé la philosophie, l'économie, la politique. C'était Bertha qui entraînait hein, le mouvement. Son mari a suivi, finalement.
Et alors, le résultat de cette prise de conscience des horreurs de la guerre et de toute cette philosophie dévorée par le couple au fin fond du Caucase, ça va être d'abord leurs premières publications, mais aussi ensuite le fameux roman « Bas les armes », dans lequel le pacifisme de Bertha von Suttner va vraiment devenir frontal. Alors nous consacrerons demain une émission entière à ce livre, mais en deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire, Ingeborg Grabenstein-Michel, quel impact il a eu dans sa vie, quel impact ce livre a eu dans sa vie ?
Un impact bien entendu énorme, puisque ce livre a été un énorme succès. Il s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Enfin, faut quand même imaginer la chose. Il a été publié en 1889 à Dresde, chez Edgar Pearson. Il était impensable de publier ce livre dans l'Empire austro-hongrois, bien entendu, hein, enfin, avec toute l'orientation militaire enfin, de l'Empire. Des éditeurs se sont montrés assez frileux, ont demandé des changements, des modifications, il fallait adoucir. On lui a reproché beaucoup aussi que pour une femme, alors on revient un petit peu maintenant au côté pour une femme, hein, d'avoir décrit dans ce livre les horreurs de la guerre de manière extrêmement précise et pas du tout édulcorée, etc. Mais bien entendu, elle a, ça a eu un très très grand impact dans sa vie, entre autres bien entendu parce que elle était devenue, elle et son mari, enfin financièrement indépendante, hein, suite au succès de ce livre. C'est dans le Caucase qu'elle avait commencé à réfléchir, comme disait ma collègue, à la rhétorique de la guerre, à la logique de la guerre, au principe d'héroïsme, etc. En 1862, Henri Dunant avait fondé la Croix-Rouge, hein, donc elle avait commencé à prendre connaissance aussi qu'il y avait des ligues pour la paix qui se mettaient en place, etc. Et tout ça s'est emboîté à un moment donné pour donner ce livre dont vous allez parler demain. Je voulais juste ajouter peut-être, parce que tout à l'heure on a déjà évoqué ça, mais le livre a été très vite adapté pour la scène, pour le théâtre, hein, en 1911, hein, par Karl Pauli. Et puis en 1914, une première fois pour le cinéma, sur un scénario de Carl Theodor Dreyer, hein, qui est un cinéaste bien connu.
Et qui, si je ne me trompe pas, est un film muet, donc dont on ne va pas pouvoir passer d'extrait, mais en effet, que nos auditeurs peuvent retrouver.
Mais effectivement, le succès et le retentissement a été énorme. Et si je peux encore ajouter une petite chose, enfin, c'est... On a souvent fait un petit peu le parallèle avec La case de l'oncle Tom de Harriet Beecher Stowe, qui avait effectivement déclenché une prise de conscience de la situation des esclaves noirs aux États-Unis, enfin les États sudistes, et puis pour la paix, hein, en Europe, enfin pour dire ça de manière un peu globale.
Alors, Les Armes va rester son plus grand succès. Pourtant, elle a écrit beaucoup d'autres livres, Marie-Antoinette Marteille. Est-ce qu'il y en a des romans ou des essais antérieurs ou ultérieurs qui vous semblent importants de mentionner ?
Absolument. Le premier serait Inventaire d'une âme, qu'elle a publié en 83, donc encore en main grêlée. Où c'est dans ce livre-là qu'elle prend la première... notion de ce que c'est que la guerre, qu'elle commence à théoriser ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Il y a ensuite, en 88, L'âge des machines, qui est un livre philosophique. Ces premiers livres ont tous été signés B ou Lot, en référence au fait qu'elle était un peu boulotte et que dans la famille Zoutner, on l'appelait la petite boulotte.
Mais ça passait pour les initiales d'un prénom qu'on imaginait masculin.
Oui, absolument. Et Inventaire d'une âme a encore été signé B ou Lot. Mais celui qui a suivi, c'est donc L'âge des machines. Il a été signé quelqu'un, Yemand. Donc, anonymat complet. Et il a eu, à l'époque, beaucoup de succès. Mais ce n'était pas un livre pour dames. Et elle s'est amusée à poser la question, par exemple, à une soirée en disant « Est-ce que vous avez entendu parler de ce livre-là ? Qu'est-ce que c'est ?» Oh, là, lui aurait-on répondu « C'est quelque chose d'intéressant, mais pas pour vous, c'est pas un livre pour dames. »
Alors que c'est elle qui l'avait écrit. C'est une magnifique anecdote qui nous rappelle aussi à quel point elle avait quand même courageusement bravé les codes de son milieu.
Et en même temps,
elle est quand même restée fidèle à des valeurs plutôt conservatrices, contrairement par exemple à Jaurès qu'elle a rencontré. Elle n'adosse pas explicitement son pacifisme à un idéal socialiste. Comment expliquez-vous, Ingeborg Rappelstein-Michel, le fait qu'elle ait quand même garder une partie des valeurs de ce milieu contre lequel elle s'était plus ou moins directement élevée?
Je crois que là aussi, il y a quelque chose d'atypique pour l'époque. Enfin, comme ça a été dit, On lui a toujours reproché, au-delà de l'anecdote là qui vient d'être apportée, cette écriture, enfin entre guillemets masculine, hein, enfin de s'occuper de sujets, de thèmes, enfin qui a priori étaient traités par les hommes, qui étaient sérieux, qui étaient réservés aux hommes, etc. Alors, en revanche, vous avez mentionné Jaurès, enfin, on pourrait mentionner aussi les socialistes allemands. Enfin, elle a rencontré Bebel, elle a rencontré Liebknecht, etc. Alors, c'est ma théorie, si vous voulez. Elle est restée quand même, elle avait quand même ses racines dans ses origines aristocratiques. Et elle était dans une logique du top-down, hein, en fait. Finalement, le changement n'allait pas venir du peuple, en quelque sorte, mais ce sont le tsar Nicolas II, etc., qui allait effectivement donner l'impulsion, enfin, des grands du monde. Hein, même si, lors d'une audience qu'elle avait avec François Joseph, hein, premier, elle lui a exposé ses idées. Bon, vous imaginez que François Joseph n'était pas tout à fait convaincu par la baronne von Soutenin, hein, et ses idées sur la paix. Moi, je me l'explique en grande partie comme ça, et je crois que c'est aussi une des raisons pour laquelle elle a beaucoup été raillée, hein, une fois qu'on avait compris que c'était bien elle, enfin, qui avait rédigé un certain nombre de livres, enfin, qui défendait certaines idées, etc. Die Friedensberta, hein, Bertha la paix, hein, etc. Et quand on regarde les caricatures, enfin, elle est vraiment représentée, elle avait déjà un certain âge, elle est vraiment représentée comme une vieille dame, enfin, freluche, enfin, qui a une lubie. Elle a mis du temps pour être reconnue, enfin, c'est alors, excellent que vous ayez initié cette émission.
Oui, et on a initié cette émission en lisant cet extrait du Monde d'hier de Stéphane Zweig, dans lequel elle se présente elle-même comme une vieille dame que personne n'écoute, donc avec pas mal d'autodérision. Ça se passe juste avant la guerre de 14. Elle est décédée le 21 juin 1914, donc quelques jours avant l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, et donc le début de la Première Guerre mondiale. À quel point redoutait-elle, pour conclure, Marie-Antoinette Marteille, à la fin de sa vie, l'imminence d'une nouvelle guerre?
Elle était engagée contre l'armement, pour les tribunaux d'arbitrage, etc. Et personne ne l'écoutait. Elle avait créé successivement différentes associations de la paix à Vienne, à Berlin, à Budapest, à Venise, etc. Et participer à des tas de congrès. Tous les ans, il y avait un congrès de la paix, elle y participait, avec, soit dit en passant, avec l'aide financière de Nobel. Elle a fait des tas de conférences tous les ans, et y compris alors dans toute l'Europe, sauf en Autriche, et deux fois aux États-Unis, en 1905 et 1912. Et donc, oui, elle avait du succès partout, sauf chez elle.
Parce qu'on n'est jamais prophète en son pays.
Jamais, voilà.
Merci infiniment Marie-Antoinette Marteille et Ingeborg Grabenstein-Michel. Merci à Chantal Nouvelot pour le duplex de Lyon. Et à Henri Leblanc qui m'a aidé à préparer cette émission, Olivier Bétard qui la réalise, et à Alexandre Dang pour la technique. Avoir raison avec Bertha von Suttner, ça continue demain. Demain, pour parler plus précisément de son livre Bas les armes, je recevrai Karl Ziegler et Peter van den Dongen. À demain.